Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être mal conseillé, de vivre des temps difficiles, des épreuves, et de chercher auprès d'un frère, d'un membre de notre famille, de votre famille, un réconfort, et de trouver quelqu'un qui a un ministère spécial d'encouragement qui vous fait sombrer un peu plus bas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas, c'est arrivé à David. Et avant de lire cela, on va aller faire une courte lecture, un verset dans le livre de Jérémie, pour introduire ce que nous allons lire ensuite dans les psaumes. Jérémie, chapitre 10, verset 10. C'est une référence qui est facile à retenir, et je pense que c'est un verset qu'on doit apprendre, parce que on vit une période, des temps, et on a besoin d'apprendre cela. Il est écrit: mais l'Éternel est Dieu en vérité. Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Et un roi éternel, la terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Et c'est la déclaration en tout cas qui nous intéresse, et c'est le titre de mon message: Dieu, un roi éternel. Et on va ensemble dans le livre des psaumes. Et nous allons lire le psaume numéro 11. Une autre version nous dira, je reviens un instant sur Jérémie, une autre version nous dirait: mais l'Éternel est un Dieu qui est vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Gardons ce verset en mémoire. Psaume 11, nous allons le lire ensemble. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire: fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Dieu, c'est le Dieu de vérité, on l'a lu. C'est Dieu qui est la vérité émane de lui. Et ce psaume est un psaume de David, et on connaît vous qui êtes habitués, accoutumés à lire la parole de Dieu, vous savez que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Peut-être pour d'autres, vous découvrez ce psaume. Mais plaise à Dieu que ça vous donne envie de lire la parole, de découvrir qui est David. En tout cas, David, c'était vraiment quelqu'un qui était proche du Seigneur, qui avait une relation particulière. Et quand il écrit ce psaume, on sent vraiment un clivage dans sa vie entre ce que ses amis disent, et on y reviendra, et entre ce que lui vit, et en tout cas entre ce qu'il voudrait vivre, ce à quoi il aspire. Et bien souvent dans nos vies, en tant que chrétiens, on peut se retrouver dans une sorte de tremblement de terre où il y a différentes choses qui se passent dans notre quotidien, dans la famille, au travail, et tout à coup, ce qui était stable, ce qui était fixe, ce qui semblait solide, commence un petit peu à vaciller. Et là, on peut se retrouver dans la posture de David, à chercher conseil, à aller voir, Et ses amis, c'est pour ça que je vous disais en introduction, ses amis vont lui donner un conseil qui n'est pas du tout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui n'est pas du tout une bénédiction. Et on voit là le cœur de l'homme de Dieu. Parce que David va faire une réponse qui lui ressemble, mais qui exprime sa relation avec Dieu, qui n'est pas une relation superficielle. Mais avant de parler de la réponse de David, on va voir un petit peu pourquoi ses amis disent cela. Qu'est-ce qui se passe ? Comment pouvez-vous me dire « fuis »« Fuis dans vos montagnes » Et avant d'aller plus loin, je me suis dit, il faut quand même en parler, parce qu'on voit dans la parole de Dieu des exemples où il est nécessaire de fuir. On ne pourrait pas dire cet après-midi que la fuite, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce serait une erreur, ce serait inexact. Et un des plus bels exemples, je l'ai noté pour vous, c'est lorsque Jésus-Christ va naître, un ange du Seigneur, alors je pense que là on peut avoir la certitude que c'était dans la volonté de Dieu, un ange du Seigneur va apparaître en songe à Joseph pour lui dire « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte ». Il y a des moments dans notre vie chrétienne où c'est ainsi. On doit fuir, on doit aller dans un autre endroit, parce que même si on ne comprend pas de suite, c'est la volonté de Dieu. L'Évangile s'est développé dans tout le bassin méditerranéen parce que il y a eu une persécution, Dieu a permis la persécution et c'est cela qui a développé l'Évangile d'une manière extraordinaire. Il se peut et il peut y avoir dans notre vie des fuites qui sont voulues de Dieu. Mais les amis de David, ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas ce même rapport, parce que David, d'ailleurs, lui-même va connaître à de nombreuses reprises la fuite dans sa vie. La fuite devant Saül, la fuite devant Absalom, on le sait, ça a été nécessaire, ça a été voulu de Dieu. Il avait reçu l'appel, il sut dans son cœur, il avait reçu l'onction royale, il savait qu'il allait être roi, mais entre le moment où il y a eu cette onction et le moment où il a été sur le trône d'Israël, il s'est passé quand même quelques temps et quelques épreuves, quelques tempêtes, quelques tremblements de terre. Comment est-ce que nous, on se comporte ? Quelle est notre réaction ? Comment est-ce qu'on est alors qu'on sait qu'on a eu des promesses de Dieu ? Mais on voit que rien ne se passe. Est-ce qu'on est capable, à l'image de David, de toujours garder ses promesses dans notre cœur ? Ou alors parce qu'on perd patience, parce qu'on se dit que c'est trop tard, ça fait trop longtemps que j'attends, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé de côté, alors tant pis, j'abandonne tout, je vais ailleurs, je vais dans une autre église, je quitte l'église, enfin bref, vous savez, on peut se dire beaucoup de choses. Mais toujours est-il qu'il y a une bénédiction particulière pour les enfants de Dieu, les chrétiens et tous ceux qui reçoivent des promesses et qui les serrent dans leur cœur en se disant « mais si Dieu me l'a dit, c'est qu'il est tout puissant pour accomplir ce qu'il dit ». David était dans cet état d'esprit, ses amis vont lui dire, et je vais vous lire dans la version français courante, et j'ai inversé les deux versets. Parce que, vous l'aurez remarqué, ce psaume, on pourrait dire, il commence un petit peu par la fin, par une proclamation de David. Et j'ai remis, je me suis permis, mais ça garde bien évidemment la pensée de ce texte, ce que ses amis disent. En version français courante, nous avons ceci. « Mais regarde bien !» On pourrait dire « Regarde, David !»« Regarde où tu en es !»« Regarde bien les méchants !» Tendent leurs arcs, ils ajustent leurs flèches sur la corde. Autrement dit, mais regarde bien, ils veulent te tuer, David, pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit. Et c'est là la pensée et la voix de l'ennemi qui essaye sans cesse de décourager ce que la Bible appelle les justes. Les hommes au cœur droit, c'est nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est nous qui sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes des hommes justes si nous sommes dans l'obéissance, si nous aimons la parole, si nous aimons les commandements, les préceptes de Dieu, et que notre délice, c'est de faire la volonté de Dieu, nous avons le cœur droit. Regarde bien les méchants. Ils veulent tirer dans l'ombre. Sur les hommes au cœur droit, et ensuite c'est file, pars, fuis. C'est la meilleure des choses à faire pour toi. C'est pas pareil. C'est différent de recevoir une parole de Dieu nous disant « mais peut-être que là, c'est le moment. Pour un temps, tu vas devoir partir. » C'est différent dans la vie d'un chrétien. Lorsque s'étant tenu devant le Seigneur, il doit comprendre que là, parce que ça le dépasse, mais parce qu'il fait confiance à son Dieu, parce qu'il sait que Dieu a sa vie entre ses mains, et que si Dieu lui dit « mais écoute, pour un temps, écarte-toi, pour un temps, fuis, ne combats pas, il y a un temps pour chaque chose ». Et c'est évident. Mais là, les amis de David, et c'est quelquefois le danger dans notre vie chrétienne, c'est de succomber à cette voix qui doucement nous dit « mais tu ne peux plus t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir, fuis ». Peut-être qu'auparavant, Dieu a réussi à te protéger, peut-être qu'auparavant, tu as reçu la bénédiction de Dieu, peut-être que oui, effectivement, tu as reçu des promesses, mais aujourd'hui, fuis. Fuis parce qu'il y a des méchants, fuis parce que tu ne vas pas y arriver, David. Et on pourrait mettre notre prénom, chacun cet après-midi, si nous voulons faire la volonté de Dieu, mon frère, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes là cet après-midi, il y a toujours ce combat en nous, il y aura toujours ce clivage, et on doit tendre à être conduit par l'Esprit, c'est une réalité. Pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, pour ne pas baser notre vie spirituelle uniquement sur des sensations, sur ce que l'on peut voir, entendre, appréhender. Quand bien même il y a des ennemis, quand bien même il y a des méchants, je pense que la volonté de Dieu, quand bien même il se peut, et je ne vais pas revenir sur tout ce que je dis, il se peut que Dieu nous demande de fuir, mais en tout cas, quand même, Dieu nous appelle, à certains moments de notre vie, à remporter des victoires. La traduction de « fuis », on pourrait vraiment le décliner en d'autres termes, et vous allez comprendre vraiment la spiritualité, je pourrais dire, de ses amis. Je dis ça entre guillemets. « Fuis », c'est se déplacer de ci et de là. Errer. Errer à la dérive. Comme une barque qui est sur l'eau, qui n'est pas attachée, qui n'a pas d'ancre, la barque s'en va à la dérive. Errer sans but, vaciller, agiter, être secoué, trembler. On pourrait aussi traduire, et c'est le même mot qui est utilisé pour dire pleurer sur soi-même. Pleurer sur soi-même. C'est le même mot qui est utilisé, j'ai noté ça, pour qu'on puisse comprendre cette image. Ce que sans cesse l'ennemi de nos âmes veut nous faire croire, ce que sans cesse nous sommes, ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie, alors qu'on prie, alors qu'on aime le Seigneur, il se peut que quelquefois l'ennemi de nos âmes vienne nous dire « mais fuis, va là-bas, va chercher une solution de ce côté, va chercher une autre solution de là-bas, va chercher une solution dans le monde ». Va ici, va et là. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu s'adresse à Caïn. Il va lui dire, mais tu cultiveras le sol, mais il ne te donnera plus sa richesse. C'est dans Genèse 4, verset 12. Et il va dire à Caïn, tu seras errant et vagabond. Et c'est le même mot qui est utilisé. Errant et vagabond. Et ça, c'est le fruit du péché. Mais nous qui sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, nous qui avons notre vie en règle, vous comprenez bien que nous n'avons pas à être errants et vagabonds. Vous comprenez bien cet après-midi que la volonté de Dieu, quand bien même nous vivons des temps difficiles, quand bien même il se passe des choses compliquées dans notre vie, nous devons avoir sans cesse cette vision, ce regard spirituel qui nous montre la direction dans laquelle nous devons aller. Bien sûr, ça peut arriver d'avoir des temps de flou. Bien sûr, ça peut arriver d'être déstabilisé, d'avoir une tempête dans notre vie. Ça peut arriver alors qu'on a réussi à sortir de la barque. On entend toujours le souffle, le vent qui est là. Et on fait un pas, deux pas et on commence à s'enfoncer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est toujours là à côté de nous. Pleure sur toi-même. Pleure sur toi-même, l'ennemi de nos âmes, les amis de David qui conseillent, mais regarde David, pleure sur toi-même. Autrement dit, mais arrête de regarder vers Dieu la solution. Regarde uniquement sur toi. Lamente-toi sur ton sort. Pleure sur toi-même. Regarde à tes capacités. Et combien de fois est-ce qu'on s'est fait piéger ? Combien de fois est-ce qu'en tant que chrétien, on est là, alors qu'on a des promesses, alors qu'on a des directions, il se passe quelque chose et on quitte du regard la croix, on quitte du regard le Seigneur, on quitte du regard la parole, on quitte du regard les promesses et on regarde à nous-mêmes en disant « mais je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les capacités ». Alors on pleure sur soi-même. Et je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu pour David en ce moment, à ce moment précis. Et cet après-midi, c'est vraiment un message d'encouragement, parce que je pense que le Seigneur veut que nous puissions dire, comme David a dit, sa réponse qu'il a affirmée, cette réponse qui était sûre dans son cœur, cette réponse qui n'a pas laissé de doute à ses amis. Et la même réponse doit être au fond de notre cœur, une réponse sûre, solide, basé sur la parole de Dieu qui ne laissera la place à aucun doute, aucune chose qui va venir nous déstabiliser dans notre vie. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire ? Comment pouvez-vous me dire ? Mais c'est en l'Éternel, c'est en Dieu que je crois. Comment est-ce que vous pouvez me dire ? De fuir, de lâcher, d'abandonner. Comment est-ce que vous pouvez me dire, et je paraphrase ce que David a dit, mais c'était, j'en suis convaincu, cet état d'esprit qu'il avait, cet amour, cet attachement à la parole. Et nous, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, vous qui êtes là, il y a une bénédiction à rester attaché à Dieu. Il y a une bénédiction quand bien même on vit des moments difficiles. Laissez-moi vous rappeler que Dieu est un roi éternel. Et on le verra après. Dieu est un roi éternel. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas surpris par ce qui peut se passer dans votre vie. Il le sait. Dieu n'est pas surpris, n'est pas pris de court lorsqu'il arrive une tempête, lorsque notre barque commence à être remplie par les eaux. Dieu n'est pas surpris. Comment est-ce qu'on ne peut pas se faire notre ce verset ? Mais comment est-ce que vous pouvez me dire « fuis » ? Comment est-ce que vous pouvez oser me dire d'abandonner la vérité ? Comment est-ce que vous pouvez oser me dire de baisser, d'abandonner la sainteté, la piété, parce que c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. J'ai noté deux versets, et il y en a beaucoup. Si vous avez une concordance, vous pouvez taper « refuge » et vous avez tous les versets auxquels il fait référence le mot « refuge ». Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, il a dit « extermine ». Le Dieu d'éternité, le Dieu éternel, le roi éternel est un refuge. Le psaume 9 nous dit « l'Éternel est un refuge pour l'opprimé ». Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, pour ceux qui vivent des temps de détresse. Je ne sais pas comment vous vivez ces versets, mais je pense que David l'a vécu. Et je pense que nous pouvons le vivre. Quand bien même on essaye de nous déstabiliser, nous pouvons vivre ces moments, ces instants, des temps dans notre vie, dans notre quotidien, tellement bénis, tellement remplis de la présence de Dieu, où nous pouvons dire, mais dans les temps de détresse, je sais que Dieu est avec moi, je sais que le sang de Jésus est là, me purifie, je sais que le sacrifice de Jésus-Christ est là actuel, qu'il a tout accompli pour moi, et c'est cela qui me rassure. Ce qui est particulier dans la réponse de David, c'est que, alors par exemple, que dans le psaume 9, le psaume que je viens de lire, Le mot « refuge » fait référence à un lieu élevé, à une forteresse, et on comprend bien l'image de l'Éternel est un refuge, l'Éternel est une forteresse bien gardée, un lieu où on peut aller pour se réfugier, un lieu qui va nous protéger. Il y a une particularité parce que lorsque David va dire « mais c'est en l'Éternel que je cherche un refuge », la traduction de « refuge » va peut-être être différente, va être plus loin. Il va dire, et la traduction c'est « mettre sa confiance en Dieu », c'est « espérer en Dieu ». C'est espérer, c'est continuer d'espérer, de garder cette espérance, de garder cette confiance en Dieu. C'est-à-dire que David est en train de dire, mais je sais que ça va mal. Je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des méchants qui veulent m'atteindre. Je sais que demain, il peut y avoir des mauvaises nouvelles dans ma vie. C'est ça qui animait le cœur de David. On pourrait traduire peut-être dans ce qui se passe aujourd'hui, et on y reviendra. Je sais que dans la société dans laquelle nous vivons, c'est compliqué. Ça devient de plus en plus un blasphème, une horreur. Je sais que demain, à mon travail, ça peut mal se passer. Je sais que dans la prochaine réunion de famille, le prochain repas de famille, ça peut être compliqué. Mais je mets ma confiance en Dieu. J'espère en Dieu, je continue, et mon cœur veut sans cesse continuer d'espérer en Dieu. Mon cœur ne veut pas abandonner, mon cœur ne veut pas lâcher l'amour et la main de Dieu, parce que c'est lui qui peut faire la différence, et c'est lui qui va faire qu'il peut se passer, et il va se passer des choses qui vont peut-être nous dépasser nous, mais en tout cas qui vont être dans la normalité pour Dieu. Plus nous avançons dans le temps, plus nous vivons aujourd'hui en 2015, plus nous serons confrontés à des situations qui vont être pour nous des occasions où il y aura un moment donné la pensée peut-être de fuir, la tentation de fuir. Mais je pense que plus nous avançons, plus nous vivons dans ces temps, ça peut être aussi l'occasion pour nous de nous ancrer davantage dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que si nous avons Jésus-Christ, dites-moi sincèrement cet après-midi, si nous avons Jésus avec nous, est-ce que nous sommes dans la terreur? Est-ce que nous sommes dans la crainte? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons vacillants? Si nous avons Jésus-Christ, je pense que nous serons solides, que nous serons ancrés dans la parole. Le deuxième point, et c'est mon deuxième point, je n'ai pas de troisième point, c'est le juste demeure ferme. Parce qu'il y a une continuité dans ce psaume. David a dit, a expliqué, que lui, il espère, il a confiance en Dieu, qu'il ne veut même pas entendre. Même pas entendre parler de fuite, même pas entendre parler, de regarder à lui sur ses propres capacités. Et alors que nous sommes dans ce positionnement, nous pouvons vivre ce qui est écrit, parce que c'est le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et je vais vous lire la version en français courant. Et vous allez voir qu'un texte qui a été écrit il y a des centaines et des centaines d'années, vous allez avoir l'impression qu'il a été écrit hier. La traduction en français courant nous dit « Les valeurs de la société sont en miettes, que peut faire alors le fidèle ?» Que peut faire alors le fidèle ? C'est une question qu'on peut se poser cet après-midi. C'est une question qui peut demeurer, qui peut être là, au fond de notre cœur. Lorsque la société, lorsque les valeurs de notre société, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ceux qui sont attachés à Dieu, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir confiance en Dieu? Comme le dit Jésus-Christ, mais quand ces temps vont arriver, relevez la tête. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, lorsqu'il y aura des temps difficiles, mais relevez la tête, il s'adresse à nous, qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, à nous qui sommes attachés à sa parole. Le juste, que fera-t-il? Le juste sait que Dieu est un roi éternel. Le juste sait que Dieu n'est pas surpris par les événements. Et David savait parce que il avait ce passé, il avait cet état d'esprit. Autrement dit, si on prend l'habitude de fuir lorsque les fondements sont stables, si lorsque les fondements sont stables, lorsque tout va bien, comme David, on prend l'habitude de fuir, mais alors quand les fondements vont être renversés, qu'est-ce qui va se passer pour nous dans notre vie? Et ce texte nous renvoie vraiment dans notre quotidien, dans la pratique de notre foi, dans le concret de la vie chrétienne. Est-ce que nous avons des valeurs? Est-ce que nous sommes appuyés, basés sur la parole? Est-ce que Jésus-Christ est le centre de notre existence, de telle sorte que lorsque tout va bien, je suis ancré? Lorsque tout est tranquille, c'est Jésus-Christ mon fondement, mais lorsque les fondements sont renversés, Jésus-Christ continue d'être mon fondement. Mais si à la moindre épreuve, mais si lorsqu'il y a une petite difficulté, on prend l'habitude de fuir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand les valeurs de la société qui sont en miettes vont être des petites miettes? Vont être des miettes microscopiques, ça va être compliqué pour nous dans notre vie. Le mot fondement, on pourrait le traduire, et ça nous renvoie vraiment à un état d'esprit. Ça veut dire fixer son esprit sûr, poser, mettre la main dessus. C'est ce qui constitue la base de notre vie. Là où j'ai fixé mon esprit. Si je fixe mon esprit sur la parole de Dieu, il est évident que je ne vais pas être ébranlé. Il est évident que je vais être stable. Il est évident que je ne vais pas être surpris. Si ma vie entière est basée sur Christ, il est évident que ça va. Mais si mon esprit est fixé sur des valeurs du monde, sur mon compte en banque, et il peut y avoir tellement de choses, je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui sont aisées, vous comprenez bien. Mais si mes valeurs sont différentes de la parole de Dieu, lorsque tout ça va trembler, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jérémie, et c'est un texte que j'ai déjà pris, mais on ne pouvait pas passer à côté. Jérémie va pouvoir dire, c'est dans Jérémie chapitre 12, « Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et toute la végétation desséchée dans les champs? La vie animale dépérit dans le pays. » Par la faute de ses habitants, ils disent « Jérémie sera fini avant nous ». Jérémie est en train de répandre son cœur à Dieu. Et c'est un texte que nous avons déjà partagé. Et c'est la réponse de Dieu à Jérémie alors qu'il est là, qu'il répand son cœur parce qu'il vit des temps difficiles. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et Dieu répond à Jérémie, « Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain ?» Il y a une invitation de Dieu cet après-midi à comprendre qu'il veut être notre refuge. À comprendre que malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser, Dieu est toujours ce roi éternel. Il est sur son trône. Il est sur son trône. Et c'est ce que nous dit le verset 4 de ce psaume 11. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Dieu voit tout. Dieu connaît tout, Dieu sait par quoi tu passes, Dieu sait les différentes situations que tu traverses, Dieu sait les choix que tu dois prendre, Dieu sait peut-être les erreurs que tu as faites dans ta vie. Mais Dieu va encore te bénir, Dieu va encore te pardonner. Si tu as besoin de pardon, répands ton cœur cet après-midi devant le roi des rois. Si tu as besoin de te repentir, mais fais-le, ne bloque pas la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin de trouver un secours, mais cherche-le auprès de Dieu cet après-midi. Si tu as besoin d'un refuge, parce que à cause de mauvaises décisions, tu pourrais dire cet après-midi, mais oui, effectivement, je suis errant, je suis à la dérive. Je suis là, je marche sans but, je vais d'un côté, je vais de l'autre, je cherche une solution et il n'y en a pas. Mais Dieu se rappelle à toi, Dieu se rappelle à ton cœur cet après-midi pour te dire, mais viens, viens parce que j'ai mon trône dans les cieux. Je suis dans mon Saint-Temple. Dieu n'est pas surpris. Dieu te regarde. Dieu te voit. Et son désir, c'est que tu viennes dans sa présence. Son désir, c'est que tu puisses venir répandre ton âme devant lui. Non pas pour qu'il te châtie, non pas pour qu'il te juge, non pas pour qu'il te mette de côté, non pas pour qu'il te dise « mais tu avais qu'à faire ceci, tu avais qu'à faire cela, tu n'as pas pris les bonnes décisions », mais pour qu'il te dise « viens, j'ai une robe, j'ai des nouveaux vêtements, j'ai une bague pour toi ». J'ai des nouveaux souliers pour toi. Il y a tellement de bénédictions dans la présence de Dieu. J'avais noté ce texte. Je vais le lire, on ne va pas trop s'y attarder, après quoi je terminerai. C'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 18 à 20. Parce que ce que David a expérimenté, le questionnement qui était là, ce n'est pas un questionnement qui a été là et qui est pour nous aujourd'hui nouveau. Il y a eu déjà des personnes qui ont voulu renverser les fondements, qui ont voulu renverser la foi. Nous lisons, « Se sont détournés de la vérité, 2 Timothée 2, versets 18-20, se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Il y a des personnes qui vont essayer, qui vont renverser la foi, qui vont essayer de semer le doute, le trouble. Et voilà la réponse de l'apôtre Paul. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, qui sont gravées. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne des souillures du monde, qu'il reste attaché à la sainteté de Dieu. De tout temps, il y a eu des personnes qui ont voulu renverser les fondements. De tout temps, l'Église a été attaquée. De tout temps, il y a eu des choses qui sont venues pour essayer d'attaquer la sainteté de Dieu. Et en attaquant la sainteté de Dieu, on veut attaquer l'Église, on veut attaquer les chrétiens. En essayant de renverser l'Église, on veut renverser les chrétiens. C'est là l'œuvre du diable, c'est là l'œuvre de l'ennemi de notre âme, de vouloir venir renverser notre foi en semant le trouble par des choses qui sont anti-bibliques. En venant semer le trouble, en venant semer le doute, en venant semer mille et une choses, il veut renverser notre foi. Mais laissez-moi vous dire cet après-midi que les fondements de Dieu restent debout, que Dieu lui reste debout, que ce qu'il a mis en nous, c'est solide, parce qu'il nous connaît. Ça veut dire que c'est lui en premier qui fait l'œuvre, c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait ce dont nous sommes formés. C'est lui qui nous connaît. Nous, notre rôle, ce que nous avons à faire, c'est de continuer à être séparés du monde. C'est de continuer à mettre le monde derrière nous et la croix de Jésus toujours devant nous. Le monde ne doit pas faire partie de notre vie. Quand je dis le monde, vous comprenez bien, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la famille, ce n'est pas toutes ces choses-là, c'est l'esprit du monde. La convoitise, on pourrait les lister, il y a beaucoup de choses. Les fondements de Dieu restent debout. Dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il est écrit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Notre fondement cet après-midi, notre vie, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un ne comprend pas ces paroles, peut-être que vous êtes là dans ce lieu, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas comment faire. Le fondement de notre vie ne peut être Jésus-Christ que si nous venons vers lui pour demander pardon pour nos péchés, pour nous repentir en disant « mais je ne veux plus suivre ma vaine manière de vivre, de marcher, je veux te suivre toi Jésus-Christ, je veux être attaché à ta parole, je veux vivre d'une manière sainte, détachée du monde ». Alors votre fondement, ce sera Jésus-Christ. Et ce n'est pas un fondement, ce n'est pas une vie. Votre vie ne va plus pouvoir être balayée par ce qui va se passer dans ce monde, par les différentes situations que vous allez traverser. Mais votre fondement va rester stable, va rester inébranlable. Et la suite du texte de 2 Timothée, il va comparer les vases dans une maison. Parce que c'est là la bénédiction de Dieu pour chacune de nos vies. C'est parce que Dieu veut qu'on soit des vases utiles, des vases d'honneur pour pouvoir le servir, pour pouvoir être utilisés par lui. Non seulement nous sommes stables dans notre vie, non seulement il restaure ce que le péché a abîmé, il restaure ce que les expériences de vie sont venues pour balayer dans notre existence, mais après, il veut se servir de nous. Après, il veut nous amener à être des vases d'honneur dont il va se servir pour aller bénir les uns et les autres. Je terminerai par ce dernier verset du psaume 11 qui nous dit « Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. » Les hommes droits, les femmes aussi bien sûr, ceux qui lui appartiennent. On a cette bénédiction de pouvoir contempler sa face, de pouvoir être dans sa présence, de pouvoir répandre notre cœur devant lui quand ça ne va pas, de pouvoir recevoir de lui également des révélations, des promesses, des directions pour notre vie. Il y a une relation d'intimité qui s'installe. Le désir de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas qu'on soit dans une religion, ce n'est pas qu'on appartienne à un mouvement, ce n'est pas qu'on soit affilié. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on ait cette relation avec Jésus, qu'on puisse contempler sa face. Lorsqu'on ouvre la parole, le Saint-Livre, c'est Dieu qui nous parle. On est rayonnant de bonheur lorsqu'on tourne les regards vers lui. On est rayonnant de joie. Ésaïe, j'ai noté ce verset, j'ai noté quelques versets. Ésaïe 26, et je le lis dans une version différente. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ce n'est pas une paix d'un jour, ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais. Car en l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Dieu est un roi éternel, il est sur son trône. Il est sur son trône. Et c'est un trône de grâce. À un moment donné, ça ne sera plus un trône de grâce. C'est pour ça que, comme le dit la parole, nous vous en supplions, au nom de Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Et nous qui sommes réconciliés, nous avons cette espérance que nos yeux vont le voir. Mais déjà ici-bas, nous pouvons jouir de cette bénédiction. Tu le rends à jamais, le psaume 21, c'est un psaume particulier qui décrit la grâce et la bénédiction d'un roi. Et ça s'adresse bien sûr à ce que le roi peut jouir, mais je pense qu'en Jésus-Christ, nous pouvons jouir également de ces choses. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. Et je rejoins, je terminerai avec cette pensée, c'est que quel objet sommes-nous pour notre entourage ? Sommes-nous un objet de bénédiction ? Sommes-nous quelqu'un qui va apporter la bénédiction parce que notre fondement est solide, parce qu'on ne va pas se laisser déstabiliser par ce qui peut se passer dans le monde? Alors que l'Église même, les fondements de l'Église, de certaines églises, sont en miettes. Nous, nous ne voulons pas être en miettes cet après-midi, mais nous voulons apporter la bénédiction autour de nous. Amen. On prie un instant, si vous le voulez bien. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci. Merci parce que tu veux nous rappeler que tu règnes, que tu es un roi éternel. Tu n'es pas surpris par tout ce qui se passe. Et tu veux nous amener à avoir cette confiance en toi, une confiance inébranlable, à rester attaché, fermement attaché à toi, à ta parole, à tes commandements, à tes préceptes. Nous ne voulons pas fuir, Seigneur, lorsque des personnes, lorsque l'ennemi nous dit à l'oreille, mais qu'on ne va pas y arriver, nous voulons avoir confiance en toi, trouver en toi notre refuge. Merci parce que tu veux te proposer pour être notre refuge. Tu es notre Père qui nous ouvre toujours ses bras d'amour pour que nous puissions nous réfugier en toi. Merci pour Jésus-Christ, pour son sacrifice. Merci parce que nous savons que notre vie est bâtie en Christ. Et c'est cela qui tient. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes cet après-midi, regarder aux difficultés, mais nous voulons lever les yeux vers toi, mon Dieu, parce que nous savons que le secours est en toi. Nous voulons avoir confiance, quand bien même les promesses tardent à venir, quand bien même tu nous as parlé et nous ne voyons pas encore l'accomplissement de ce que tu as dit. Nous voulons rester attachés à toi. Merci parce que tu veux bénir tes enfants. Tu veux bénir peut-être un bien-aimé, une bien-aimée qui est là, dans ce lieu, qui n'a pas fait encore la paix avec toi, que dans ces instants, il puisse considérer qu'il n'est pas en paix, qu'il n'est pas réconcilié avec toi, que ce n'est pas les œuvres qui sauvent, que ce n'est pas le fait de venir à l'Église qui nous sauve, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tous nos péchés. Oui, Seigneur, merci pour cette croix. Nous te bénissons, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.